11. Une grande maison de librairie établie depuis bien des années sur le quai si parisien des Augustins, entre la rue Dauphine et la Vallée, à deux pas du Pont-Neuf, la maison Charles Béchet, venait d'éprouver la velléité de modifier le caractère spécial de son antique commerce de livres. Le mouvement littéraire de 1830, et nous n'étions guère à l'époque où je vais me placer qu'en 1833, avait entraîné bien d'autres librairies séculaires à quitter la vente pacifique des livres classiques ou sérieux pour affronter, rapier au vent, le commerce plus turbulent, plus téméraire mais en apparence plus lucratif, des livres d'imagination. Tous les éditeurs de ce même côté de l'eau qui baignait autrefois les sinistres fondations de la tour de Nesle regardaient avec des yeux d'envie la maison Gosselin, si rapidement enrichie par les romans de Walter Scott et quelques romans français. Il fallait donc s'attaquer à ce genre de publication à l'exclusion de tout autre. Là, se disait-il, est le succès immédiat. Là est l'écoulement d'une édition entière en quelques jours, souvent en quelques heures. Là étaient les relations brillantes, riches d'avenir avec la jeune école littéraire. Là était la familiarité de tous les instants avec la presse, dont l'action sur le public devenait de plus en plus formidable et si régulière dans sa puissance, qu'un éditeur savait d'avance que tel article du Journal des débats, par exemple, faisait vendre 1500 exemplaires d'un ouvrage. Un article du Constitutionnel, 800 exemplaires. Un article dans le Courrier français, 400 exemplaires. Un article dans les petits journaux, en vogue, 300 exemplaires. Il n'y avait presque jamais d'erreur dans ces calculs. Que ces temps sont loin de nous. Au nombre des fortes maisons de librairie qui se jetèrent avec ardeur dans la fabrication du roman, la maison Charles Béchet se montra une des premières et des mieux préparées à la transformation. La remarque a ici sa raison d'être. Les librairies qui brusquèrent le changement périrent avant même de sortir du port. La simple mise en train les coula, on les vit sombrer sous charge. Et cela s'explique, les manuscrits de romans s'achetaient déjà fort cher et la Révolution de Juillet, dont on n'était séparé que par 3 ou 4 années, avait élevé les droits d'escompte à un taux ruineux, et ce qui forçait à vendre presque tout au comptant, en sorte que si les livres, et particulièrement les romans, étaient fort lus, très recherchés, très discutés à cette époque, les gains n'étaient pas proportionnés au débit de la vente, quoiqu'ils fussent grands en réalité, très grands surtout si on les compare aux gains produits de nos jours par la même industrie. Dirigée par l'expérience de quelques personnes qu'elle avait mises à la tête de sa maison de librairie, Madame Veuve Béchet appela chez elle, dans des réunions habilement composées, des auteurs connus, des auteurs célèbres, et, au milieu de cette pléiade, des écrivains dont la gloire, sans être parvenue encore au zénith, répandait cependant de belles clartés au-dessus de l'horizon, dont la renommée, sinon arrivée, du moins en bon chemin, rapporterait beaucoup à qui saurait la saisir par les ailes. C'est à ces réunions hebdomadaires que je rencontrai et que je vis souvent Béranger, qui ne publiait déjà plus de chansons, mais qui était toujours, et plus que jamais peut-être, le fin, l'intarissable, le délicieux causeur du dessert et du coin du feu. De la touche, qui apportait ses poches pleines de mots ciselés, polis, damasquinés, mais damasquinés, polis et ciselés à froid, comme les poignards byzantins, et avec lesquels il égorgeait et tuait, en riant, après le café et la liqueur. Brissot-Tivard, excellent homme, cœur d'or, esprit de feu, tête encyclopédique fondue à la Diderot, homme de bien, aimé et honoré de tous, passionné pour la salubrité publique, dont il venait d'être nommé inspecteur, comme on se serait passionné pour la musique ou pour la poésie, parlant constamment de la salubrité publique, ramenant toutes les questions, soit morales, soit littéraires, soit politiques, à sa chère salubrité publique, laquelle, il est juste de le dire, dut de grands et d'utiles progrès à sa rare et patriotique initiative. Le docteur Gentil, attaché à cette époque comme homme de lettres à la maison Béchet, Louis Rebaud, fort loin à ce moment-là de songer à la députation des Bouches-du-Rhône, plus loin encore de penser au fauteuil de l'Institut, essayant des vers et toutes sortes de vers, essayant de la prose, essayant de la littérature des voyages, mais jeune, entraînant, gai comme un tambourin, tendre comme une flûte, égayant les soirées de la maison Béchet par sa verve marseillaise, pleine d'éclairs et d'étincelles. Quelques femmes de gaie et bonne compagnie venaient aussi à ces heureuses soirées, toujours précédées d'excellents dîners. Nos souvenirs nous montrent encore, dans la brume opale de ces premières années de notre séjour à Paris, Madame Brissot-Tivard, fée de salon, qui tempérait par le bonheur de son visage, par la saveur de son esprit, par la grâce ondoyante de ses paroles, le bruit océanique, la voix cuivrée, toute la domination physique de son intelligent époux, dont la grande taille, les grands yeux, la grande bouche, les grands gestes faisaient de lui le digne mari de la fée. L'ogre, le plus bel ogre de salon que j'ai jamais vu. Le soir de ma première rencontre avec Balzac à l'un de ces dîners de Madame Béchet, la conversation vint à rouler sur le départ prochain de la duchesse de Berry pour la Sicile, après une captivité de 8 mois dans la forteresse de Blair. La corvette L'Agate, destinée à la conduire à Palerme, devait faire voile dans 2 ou 3 jours, et l'on savait que le général Bugeaud, son rigide gardien à Blaye, ne la quitterait qu'à l'arrivée même au port de destination. Quoiqu'il y eût beaucoup d'opinions hostiles au gouvernement de Louis-Philippe, ce jour-là, dans le salon où je me trouvais, et aussi beaucoup de républicains qui commençaient à s'entendre tacitement avec les partisans du gouvernement déchu, afin d'être plus forts les uns par les autres pour renverser la dynastie fondée en 1830, aucune fraction présente ne me paraissait bien disposée en faveur de la duchesse de Berry. L'administration, d'abord ressentie pour la princesse quand elle traversait les halliers épineux, les plaines, les tourbières et les marais de la Vendée, qui couvraient des milliers de soldats lancés à sa poursuite, cette admiration s'était beaucoup refroidie depuis l'aveu officiel de sa grossesse, bien que parfaitement expliquée et légitimée par son mariage avec le comte Hector Luchesi Palli. Mais elle était dépoétisée. Les rayons de l'auréole s'étaient détachés de son front. Une histoire grandiose à son début, magnifique au milieu, se terminait par un roman presque bourgeois. Une insurrection formidable finissait par une déclaration de paternité à la mairie. D'un autre côté, cependant, beaucoup de légitimistes d'un enthousiasme plus robuste traitaient hautement de fables inventées par les Tuileries et la grossesse et l'accouchement et la déclaration de mariage de la duchesse de Berry. Balzac était de ce nombre. Il n'admettait rien. La trahison de la maison d'Orléans avait tout fait. La trahison expliquait tout. Cette trahison, qui avait livré la princesse de Nantes au général d'Hermoncourt et au commissaire de police Maurice Durval, ne pouvait être bien embarrassée pour imaginer une grossesse, ce qui est toujours très facile, ni pour inventer un accouchement, ce qui est un peu moins facile, mais possible, ni très embarrassée non plus pour forcer une femme brisée de corps et d'esprit à déclarer qu'elle était mariée, afin de lui voler la couronne de son fils, tout en ayant l'air de sauver l'honneur d'une maison et d'une race. Mais « Monsieur de Ménard, objectait-on à Balzac, soutenant cette impossible thèse au dessert, la tête chaude de quelques verres de vin de champagne, Monsieur de Ménard, qui a quitté Blaye aussitôt après la déclaration faite par la duchesse de Berry qu'elle était femme du comte Hector de Lucchesi Palli. » « Mensonge, rouerie, guet-apens, trahison, répliquait Balzac. On aura trompé les yeux, la bonne foi, la loyauté de Monsieur de Ménard. D'ailleurs, Monsieur de Ménard, repentant d'un éloignement peu motivé, s'est rendu de nouveau auprès de la princesse, et personne de vous n'ignore qu'il l'accompagne à Palerme. Sans doute, mais auparavant, était-il objecté à Balzac, Monsieur de Ménard a déclaré dans une lettre qu'il ne consentirait à la suivre à Palerme que sur un ordre formel de sa main. Cet ordre lui a été envoyé. Alors, seulement, il a obéi. Qui a lu cet ordre ? Répliquait Balzac de plus en plus emporté, en promenant autour du salon des regards de défi et en plantant des points d'interrogation gros comme des pieux devant chacun de ses voisins de table. « Montrez-moi cette lettre. Allons donc. Vos lettres ? Il y a toujours des lettres pour faire pendre les gens. Seulement, quand il faut les montrer, il n'y a plus que des paroles. Et ces paroles, une épingle les crève et le vent les emporte. Je ne crois pas à cette lettre. Soit, n'y croyez pas. Mais que dites-vous cependant, que dites-vous de la déclaration de Monsieur Desneux, l'accoucheur ordinaire de la duchesse ? Monsieur Desneux, son ami, le seul accoucheur qu'elle ait voulu avoir auprès d'elle au moment de la crise suprême, Monsieur Desneux qui a écrit de sa main, que vous ne suspectez pas de trahison, « Je viens d'accoucher la duchesse de Berry ici présente, épouse en légitime mariage du comte Hector Lucchesi Pali, frère des princes del Campofranco, gentilhomme de la chambre du roi des deux Siciles, domicilié à Palerme. Qu'en dites-vous ? » Je dis, tout étonné que je suis de cette déclaration, que monsieur de Brissac et madame d'Hautefort, qui sont avec la princesse depuis bien plus longtemps que monsieur Desneux, dont nous n'avons jamais du reste approuvé la présence à Blaye, où il n'est allé que de son propre et irréfléchi mouvement, n'ont jamais voulu, ni l'un ni l'autre, appuyer cette déclaration du témoignage au moins aussi important de leur signature. J'ajoute, ce que vous savez aussi bien que moi, qu'une pièce judiciaire affirmant qu'il y a dans cette affaire présomption légale de supposition d'enfant a été remise simultanément à la cour royale de Paris et à celle de Bordeaux par le vicomte de Cogny, le baron de Ludre, le vicomte de Kergolet, le comte de Floirac et quelques autres notabilités du parti légitimiste. Qu'ainsi les raisons pour nier sont bien plus fortes que les raisons pour croire. Qu'au surplus, en politique comme en théologie, il y a des choses indiscutables, au-dessus du droit, supérieures à toute critique. « Ceci, murmura-t-on à l'entour de Balzac. « Ceci, messieurs, dit Balzac en élevant la voix au ton de la passion, est mon sentiment. Et ceux qui ne le partagent pas... » Un convive s'aperçut à temps de la voix inflammable où allait s'aventurer la conversation, et il chercha aussitôt à la détourner, au lieu d'essayer avec maladresse de la fermer trop brusquement. « Pourtant, dit-il, si tout ceci, comme le pense M. de Balzac, n'était qu'un jeu de la royauté des Tuileries dans le but d'avilir le caractère de la duchesse de Berry, est-ce qu'un militaire, le général Bugeaud, aurait consenti à y participer, à se faire le geôlier de la princesse ?»« Ah ! Vous nous la donnez bonne !» s'écria impétueusement Balzac, à qui cet interrupteur bien avisé faisait la partie belle exprès pour qu'il se rangeât du côté où tout le monde allait se rencontrer d'opinion avec lui. Voilà une raison emplumée et triomphante que vous nous apportez là. La discrétion, la réserve, la pudeur du général Bugeaud. Général de qui ? Général de quoi ? Général reçu à la maternité de Paris. Il est essentiel de dire ici que jamais homme, excepté pourtant Sir Hudson Lowe, n'avait été aussi honni, aussi railli, injurié, exécré et maudit que le général Bugeaud l'était à cette époque pour avoir accepté de commander la forteresse de Blaye, devenue la prison de la duchesse de Berry. D'un autre côté, il faut se hâter d'ajouter, sans entrer dans la question de savoir si un militaire a le droit ou non de refuser une pareille mission, que le général n'était pas encore le digne pacificateur de l'Algérie, le glorieux vainqueur de l'Isly, le maréchal Bugeaud, enfin. « Votre général Bugeaud, reprit Balzac en serrant les dents et en les desserrant aussitôt, comme pour vouloir parler mais retenu de nouveau par une intention contraire, « Votre général Bugeaud !» Le docteur Gentil entra sur cette phrase, suspendu par sa présence, et dit en tenant un exemplaire du journal du soir, « Messieurs, je vous annonce le départ de la duchesse de Berry pour la Sicile. Elle a quitté la France ce matin. » « Êtes-vous bien sûr de ce que vous dites là ?» s'informa Balzac avec une vivacité d'intérêt toute particulière. « Voici le journal où se trouve la dépêche télégraphique qui l'annonce. » répondit le docteur Gentil en passant le journal du soir à Balzac. Après avoir rapidement parcouru la dépêche, Balzac se leva, si toutefois c'est l'expression qui rend la chose, car dans la discussion on ne savait pas au juste ordinairement s'il était debout ou assis tant il s'agitait, tant il éprouvait du roulis, et il dit, après être allé sur la pointe des pieds fermer les croisées qui donnaient sur le quai des Augustins, on les avait laissées ouvertes moins à cause de la chaleur du temps, on n'était guère qu'au commencement de juin qu'à cause de la chaleur du dîner, il dit « Messieurs, je vais vous annoncer une bonne nouvelle, un événement qu'il n'est plus permis à personne d'empêcher maintenant. » Qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que c'est ? Se demanda-t-on au milieu de tous ces nuages de mystère que Balzac aimait toujours à amasser autour de quelques pitons de la conversation, car personne ne fut jamais plus friand que lui de mise en scène. « Le général Bugeaud, reprit-il, ne reviendra plus du voyage d'agrément qu'il va entreprendre aux frais de la princesse. » Et, continuant d'une façon moins burlesque, « Vous comprenez que cet homme a trop fait souffrir l'objet le plus élevé, le plus digne, le plus cher et le plus sacré de nos affections royalistes pour que l'on n'ait pas eu la pensée, la bonne pensée, d'en débarrasser le monde, qui ne le pleurera pas beaucoup. Quelques jeunes gens dévoués et décidés à tout entreprendre sont partis sans bruit pour Palerme, où ils savaient depuis 15 jours que la princesse devait être envoyée, toujours sous la surveillance déjà qualifiée du général Bugeaud. Ils ont pris les devants par la voie de Marseille. À 7 heures, ils sont à Palerme et ils se tiennent prêts, sur les quais du port, à accueillir de leurs acclamations de fidélité le débarquement de la duchesse de Berry. Des honneurs attendent celle-ci, autre chose attend celui-là. Il recevra à Palerme l'accueil que fit à Londres le jeune de Las Cases à Sir Hudson Lowe, revenant de Sainte-Hélène. Et si le général, mieux disposé que Sir Hudson Lowe, veut se battre, eh bien l'on se battra. Et l'on a toute raison de croire, vu le choix des lames qui s'engageront loyalement avec la sienne, qu'il ne sera pas de retour en France de sitôt. Le café, ayant été servi à la suite de ces paroles de Balzac, tomba dans les soucoupes de porcelaine et fut noyé dans le rhum et le cognac. On passa à d'autres sujets de conversation qui me frappèrent moins, mais j'appris, 1 ou 2 mois après ce dîner, à l'honneur des renseignements de Balzac, que le général Bugeaud, prévenu ou non de ce qui le menaçait, n'était pas descendu une seule fois à terre pendant le mouillage de l'Agathe dans le port de Palerme, et qu'il était passé immédiatement de cette corvette à bord du brick Lactéon, que commandait le capitaine Nonnet pour retourner en France, où il allait trouver des destinées plus brillantes que celles d'un duel. Cette révélation faite par Balzac d'un événement qui arriva en partie vint m'apprendre pour la première fois, confirmée depuis par tant d'autres, son goût excessif pour les négociations secrètes, pour les expéditions conduites sinueusement dans l'ombre, les projets arrangés de loin, enfin, ses penchants dominants d'artiste pour les affaires de police et les machinations de tout genre qu'emploie celle-ci. Par nécessité, dans le but de parvenir à la découverte des voleurs et des criminels.